Chers auditeurs de Trouveurs d'emploi, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Trouveurs d'emploi avec Flavie Prévost qui va nous parler d'une technique pour rechercher un job. Et donc l'intitulé du podcast d'aujourd'hui est « Pour trouver un emploi, devenez freelance ».
Trouveurs d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
Alors Flavie, beaucoup d'auditeurs te connaissent déjà grâce à ton podcast Le Board. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Tu faisais également partie du comité de direction de l'entreprise Sixte, que beaucoup connaissent également. Tu vas nous parler de tout ça avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc Flavie, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux également présenter à nos auditeurs ton podcast ?
Avec plaisir et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ce studio si professionnel. Pour moi, podcastrice de salon, ça me plaît d'être dans un contexte comme ça, super comme ici. Donc moi, j'ai une expérience assez classique en grande entreprise. Pendant 13 ans, j'ai eu des fonctions de manager, puis de directrice commerciale et ensuite de membre de comité de direction dans différents grands groupes français et internationaux. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné la vocation et l'idée de créer Le Board, qui est un podcast où je partage tous les jours des conseils pour entreprendre et prendre en main sa carrière. Et donc Le Board, c'est un petit clin d'œil justement à ce fameux comité de direction. Un comité de direction, c'est fait pour conseiller, pour orienter, pour soutenir, pour épauler, mais on n'a pas tous la chance d'en avoir un ou d'en faire partie, parce que c'est un petit côté un peu élitiste malheureusement. Et moi, mon envie, c'était de le donner, ce board, à entendre en podcast et accessible à tout le monde. Comme ça, même si on est solo, même si on est freelance justement, même si on crée sa boîte ou même si on a un projet de recherche d'emploi ou de reconversion, on peut avoir un board à soi dans ses oreilles et l'écouter sur mon podcast. Voilà la petite histoire.
Alors j'aime beaucoup cette petite histoire. Et qu'est-ce qui a fait que tu laisses ta carrière chez Sixte derrière toi et que tu te tournes définitivement vers le board ? Pourquoi ?
Alors, super intéressant, parce que moi, j'étais très épanouie en plus en tant que salariée, manager et tout ça. Donc, j'adore cette partie de ma carrière. Et je vais te raconter, c'est l'histoire du freelancing. J'ai rencontré un peu ce format de travail complètement par hasard. Et en fait, c'est un format qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a rassurée et qui m'a décidé de passer à l'action et de me consacrer à mon média. Pour la petite histoire, j'avais un peu une idée de création d'entreprise. Et pour voir si c'était viable, j'ai dû faire ce qu'on appelle un minimum viable product. Donc, c'est dans le jargon, c'est un premier pas, un premier produit pour voir si c'est valable. Et c'est pour ça que je me suis inscrite sur une plateforme de freelance. Et j'ai donc moi-même réalisé des premières missions de freelance, un peu comme ça pour voir. Et là, je me suis rendu compte que c'était un mode de travail viable, sur lequel il y avait de la demande. Et du coup, j'ai pu avoir mes premières missions. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'idée de venir te parler aujourd'hui de ce concept. Parce qu'en fait, devenir freelance pour trouver un emploi, ça a plein d'avantages et ça permet vraiment de mieux vivre, je pense, sa recherche d'emploi, tout comme potentiellement sa création d'entreprise. Et c'est un mode de vie que moi, j'adore maintenant.
Écoute, je pense que ça va intéresser de nombreux auditeurs parce que moi, quand j'ai des chercheurs d'emploi, quand je suis en communication avec eux, ils me disent « je n'ai pas l'âme d'un entrepreneur, je passe mon temps quand j'ai perdu mon job à répondre aux offres d'emploi, je suis confrontée au silence, je suis dans une période de remise en question, de doute, de souffrance ». Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut mettre à profit cette période pour aller vers le freelancing, décider d'y rester ou non, d'une certaine manière. Et je pense que ce que tu veux nous dire également, c'est que ça peut ouvrir de nombreuses portes. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux juste nous donner quelques chiffres sur ton podcast, Le Board ?
Oui, tout à fait. Effectivement, Le Board, c'est un podcast, pour la petite histoire, que j'ai créé en pyjama dans mon salon, donc pendant le confinement, comme beaucoup peut-être d'auditeurs qui ont créé des projets à ce moment-là. C'était un moment un peu difficile pour tout le monde, entre l'activité partielle, parfois se faire virer, etc. Donc on a tous quand même eu ces difficultés à surmonter. Voilà, moi je l'ai surmonté en créant ce podcast. Et puis depuis que je l'ai créé, il y a 50 000 auditeurs. Et puis maintenant, on est plus de 15 000 sur les différents réseaux sociaux, puisque finalement, c'est un média qui n'est pas que podcast. Je partage aussi des conseils sur LinkedIn. Voilà, ça a commencé tout petit et maintenant ça en est là. Donc c'est aussi un peu un message d'espoir pour dire que parfois, des choses qu'on commence de façon très artisanale et sans grande confiance et en autodidacte peuvent se transformer en peut-être un métier plus tard, en l'occurrence pour moi, un an et demi plus tard.
Et quelle est l'évolution que tu veux donner à ton podcast puisque maintenant ça devient ton métier ?
Tout à fait. Ben, écoute, moi, j'ai envie de continuer à produire des épisodes qui intéressent l'auditoire. Et c'est vrai que ça prend du temps de construire des épisodes, d'interviewer des personnes, d'écrire les épisodes. Là, j'ai lancé un nouveau format mini-série, un peu comme comme sur Netflix, parce que je regarde aussi beaucoup Netflix, où en fait, on aborde un thème pendant une semaine, mais ce sont des mini-épisodes qui se suivent. Et donc, il y a une forme de narration, il y a de la musique, il y a des conseils pratiques, il y a des défis. Et du coup, c'est un format podcast business, mais un peu plus rigolo, parce que je trouve qu'on peut parler de sujets sérieux sans forcément s'ennuyer. Et ton podcast en est l'exemple, parce que c'est un moment critique dans la carrière de tous, mais on passe un bon moment avec toi et tes invités.
Eh bien, écoute, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées et vont aller voir le podcast. Donc, je rappelle son nom. Il s'agit de Le Board, mais tu as rajouté quelque chose maintenant après Le Board, il me semble.
Et oui, justement, pour pas que vous ayez peur en vous disant le board, c'est un truc d'élite, parce que c'est vrai que ça peut faire penser à des choses aussi négatives. J'appelle ça en sous-titre « Entreprendre bien entouré ». Parce que ce que je vous dis, c'est que un board, on peut s'en construire un sans forcément être un investisseur de la Silicon Valley. On pourrait s'entourer de personnes de bons conseils, par exemple dans sa recherche d'emploi, prendre deux ou trois personnes autour de soi et faire des points réguliers avec eux toutes les semaines ou tous les mois ou juste aller déjeuner. C'est déjà ça un board. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'entourage qui prime. Moi, je trouve que le réseau, c'est très important. Se faire conseiller, s'entraider, ce sont des valeurs fondamentales pour moi et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés aussi sur LinkedIn.
Ah oui, alors petite précision pour nos auditeurs, vous savez que je suis beaucoup sur LinkedIn et en effet, nous avons commencé à échanger avec Flavie, elle s'intéressait à mon travail, je m'intéressais à son travail, je m'intéressais aussi à son entreprise Six parce que je trouvais qu'en termes de marque employeur, l'entreprise avait fait de très jolies choses. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le sujet du freelancing et je te propose qu'on démarre et que tu nous donnes un premier conseil. Face à des chercheurs d'emploi qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Quelle est la première chose à faire ? Que faut-il envisager ? Comment s'organiser ?
Super. Ben, écoute, déjà, je trouve que la recherche d'emploi, c'est un monde quand même impitoyable parce qu'il y a un rapport de force entre le salarié, enfin le futur employé qui a besoin de ce travail et l'employeur qui, quelque part, a un peu l'embarras du choix. C'est souvent ce qui est frustrant dans cette recherche d'emploi. Et je trouve que se mettre freelance, c'est aussi renverser un peu la table, renverser un peu ce rapport de force. C'est, par exemple, tu vois, le bandeau Open to Work sur LinkedIn, c'est quelque chose de pratique pour les recruteurs, mais ça veut dire aussi, quand on le met, qu'on est un peu à la merci des recruteurs pour être employé, et donc, des fois, on peut pas bien négocier ses conditions de travail. Je trouve que devenir freelance, prendre quelques missions, être occupé à avoir ses missions, tout de suite, quand on va avoir un entretien ensuite avec un recruteur, on va lui montrer qu'on s'est employé pendant ce temps de la recherche d'emploi à développer ses compétences, à rencontrer des nouvelles personnes. Ça va être tout de suite un plus et ça va rétablir un petit rapport d'équilibre entre employeur et recruteur.
Alors, je te rejoins vraiment par rapport à ça et c'est aussi très lié au marché français. On le dit souvent dans les épisodes de Trouveurs d'emploi. En France, quand on est chercheur d'emploi, on a une mauvaise image, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans les marchés anglo-saxons, puisque ben, toi aussi tu as travaillé à l'international, moi également. Mais en tout cas en France, on a une mauvaise image. Et c'est vrai que plutôt que de rester en recherche d'emploi, de rester dans l'inaction, le fait d'être freelancing, d'avoir sa petite entreprise, d'une certaine manière, ça nous positionne différemment. Et je voudrais revenir, c'est une petite aparté, je voudrais revenir sur le bandeau Open to Work, parce que les avis sont partagés par rapport à ce bandeau, et je pense que c'est la même chose de ton côté. Au début, quand on a vu arriver ce Open to Work, alors je rappelle pour les auditeurs, c'est la possibilité sur la photo du profil LinkedIn de faire savoir à la terre entière de LinkedIn que l'on recherche un job. Et les avis ont été mitigés parce que, d'une part, on se dit que c'est pratique pour les recruteurs parce qu'ils peuvent identifier très vite les chercheurs d'emploi. D'autre part, ça stigmatise un petit peu les personnes qui sont en recherche d'emploi, notamment dans leur démarche réseau. Jusqu'à présent, j'avais tendance à dire, ne le mettez pas, faites savoir que vous recherchez un job, mais de façon un petit peu plus subtile. Mais je suis en train de changer parce que je me bats pour que nous n'ayons plus honte d'être chercheurs d'emploi en France. Et par exemple, tu vois, moi qui organise tous les dimanches soirs un live audio pour les chercheurs d'emploi, ben quand je cherchais à les inviter à mon live, ben c'était tout de suite hyper facile de cliquer sur tous ceux qui étaient entourés de verre. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, après tout, est-ce qu'il ne faut pas assumer qu'on recherche un job? Et est-ce qu'on ne peut pas finalement, et là je te pose la question, avoir ce rond vert même quand on est freelancing, puisque ça veut dire qu'on recherche un job, mais rechercher un job, ça veut aussi dire rechercher un travail, rechercher des missions, rechercher des contacts.
Absolument, je le vois de plus en plus et je trouve ça très utile justement d'être freelance, d'être open to work et de montrer qu'on cherche des missions. Et en réalité, quand on est freelance, on doit toujours être en éveil sur les futures missions potentielles. C'est comme ça qu'on trouve ces futures missions, donc c'est tout à fait OK d'avoir le bandeau open to work. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide aussi de devenir freelance à reprendre confiance en soi. Parce que aussi, quand on est dans la recherche d'emploi, des fois, on perd un peu pied, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur tel logiciel, on connaît peut-être pas ce nouveau secteur d'activité dans lequel on voudrait aller, par exemple, j'en sais rien, la mode ou l'industrie ou peu importe. Et donc, le fait de commencer par une petite mission en tant que freelance, ça permet de développer son expérience pendant ce temps-là, d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Donc en fait, c'est comme un monde parallèle à la recherche d'emploi qui va vous permettre quand même de rencontrer ces futurs décideurs de l'entreprise. Et du coup, c'est aussi avantageux parce qu'un recruteur qui va recevoir 300 CV pour la moindre offre de stage, mettons, si vous êtes freelance dans l'entreprise, vous pouvez croiser peut-être le DRH à la machine à café, vous discutez avec lui et peut-être qu'il se rendra compte que vous avez un profil intéressant pour l'entreprise. Donc tu vois, je trouve que c'est une façon aussi de se rassurer, de se démarquer, parce que tout le monde ne fait pas l'effort de travailler ses compétences comme ça pendant sa recherche d'emploi. Et puis aussi de développer son réseau. Voilà, donc pour moi, c'est du tout bon de devenir freelance. Et tu vas voir, c'est assez facile de se lancer.
Alors justement, est-ce qu'on peut traiter de ce sujet? Comment est-ce qu'on se lance? Je suis chercheur d'emploi. Je me dis, je vais écouter Flavie et je vais arrêter de postuler, attendre, me remettre en question. Et je vais me lancer, je vais remettre un pied dans la vie active. Qu'est-ce que je fais quand je suis chercheur d'emploi pour devenir freelance?
Alors, ça dépend bien sûr du métier qui est le vôtre, parce qu'il y a des plateformes spécialisées pour la mise en relation entre les freelances et les entreprises. Tout dépend de votre métier. Donc ça, je peux pas vous parler pour toutes les fonctions. Mais admettons que je prends une plateforme assez connue, généraliste, qui s'appelle Malte. Donc c'est très facile. Vous allez sur Malte, vous ouvrez votre profil. Créer un profil sur Malte, c'est comme créer un profil sur LinkedIn, en gros. Tu mets ta photo, tes compétences, un portfolio avec quelques expériences. C'est un peu comme un CV en ligne. D'accord ? Donc, ça ressemble vraiment beaucoup à tous les sites que vous avez l'habitude de consulter en tant que chercheur d'emploi. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, vous allez pouvoir être référencé pour trouver des missions de freelance. Alors, le travail ne s'arrête pas là, parce qu'après, il va falloir travailler un peu son profil pour en trouver. Deuxième point, la création du statut de micro-entrepreneur, elle est très facile en France. C'est quelques clics en ligne. Je crois que tu en as déjà parlé, mais voilà, c'est gratuit. C'est vraiment très, très facile. Je pense en une heure en ligne, on a créé son entreprise. On n'a pas besoin de réseau social ou quoi. Hop, donc ça, c'est bon. On aura les documents juridiques nécessaires si jamais on a besoin de facturer ou d'avoir une mission. Donc voilà, les deux premières étapes. Et troisième étape, bien sûr, ça va être de comprendre quelles compétences je peux apporter au marché, qui va être prêt à payer pour ça. Et pour ça, il va falloir faire quand même un peu de travail de recherche. Donc moi, ce que je recommande, c'est toujours pareil, d'aller sur ces plateformes de freelance, mais de se mettre ce coup-ci dans la peau d'un recruteurs de freelance, donc plutôt des entrepreneurs, souvent des startups, parce que le freelancing, c'est quand même un modèle assez récent, donc c'est pas forcément des entreprises, des grands groupes qui recrutent en freelance, ça peut être des startups qui n'ont pas encore l'argent pour payer les gens en CDI toute l'année, qui vont faire appel à des freelances. Et là, on se met dans la peau du dirigeant de cette entreprise et on se dit... Qu'est-ce qu'il va chercher? Et par exemple, moi, je peux vous donner des exemples. Si je suis assistante de direction, je pense que dans le monde des startups, ils vont plutôt chercher office manager. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui nous aident sur le plan administratif. Moi, je suis directrice commerciale en freelance. Mais finalement, sur Malte, je crois que sur mon profil, il y a marqué business developer. Parce que c'est ça que les gens achètent. C'est le besoin de trouver des clients rapidement. C'est pas manager une équipe de 50 commerciaux, puisqu'en fait, ils n'ont pas 50 commerciaux encore dans leur entreprise. Tu vois, donc traduire ce... dont les clients auraient besoin et mettre sur son profil comme ça ce qu'on peut aider les clients à atteindre. Et enfin, dernière étape, il va falloir fixer un prix puisque c'est quand même assez transactionnel ces plateformes. C'est ce qu'on appelle le TJM, le taux journalier moyen. C'est finalement le prix de votre prestation pour une journée de prestation chez le client. Là, il y a plusieurs écoles, mais moi, j'irai déjà chercher qui est... concurrents, entre guillemets. Par exemple, si vous êtes chargé de marketing, vous tapez marketing et vous regardez quels sont les TJM et les expériences des gens et vous vous mettez à peu près au milieu. N'oubliez pas, même si on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, d'accord, on fait ça pour développer son expérience, que le TJM, ce n'est pas ce qui va 100% dans votre poche. Donc, si vous facturez, mettons, 200 euros de TJM, moi, pour simplifier, je dis qu'à la fin, il reste à peu près la moitié dans ta poche. Donc, au final, vous... 200 euros, vous dites c'est bien. 200 euros fois 5 jours, ça fait 1000 euros. 1000 euros fois 4 semaines, ça fait 4000 euros. Ça a l'air très attractif, sauf qu'à la fin, il ne vous reste que 2000 euros. Et surtout, n'oubliez pas qu'en tant que freelance, on ne travaille pas 5 jours sur 5 parce qu'il faut faire son LinkedIn, son Malte, sa relation client, écouter des podcasts pour se professionnaliser. Voilà, donc au final, moi, je conseillerais un TJM pas en dessous de 400 euros. Alors, tout dépend de votre expérience, bien sûr. Et puisque là, on est là pour chercher un emploi, on pourrait même faire des missions un peu à des prix plus attractifs, voire même gratuitement pour se tester. Mais savoir calculer son TJM, c'est aussi calculer sa valeur de trouveur d'emploi. Et quelque part, ça vous aidera à négocier votre futur salaire. Ça vous donnera de la confiance dans toutes ces négociations tarifaires. Elles vous serviront au moment de négocier votre salaire, j'espère.
Merci pour ces précieux conseils. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe par rapport à Pôle emploi? Parce que quand on recherche un emploi, on reçoit des indemnités. Comment ça se passe par rapport à ce qu'on reçoit par rapport à nos TJM? Voilà, quels sont les conseils?
Alors, c'est vrai que c'est l'avantage aussi de ce dispositif, c'est que c'est tout à fait compatible. Alors, moi, je ne suis pas experte en la matière, mais je peux juste vous rassurer sur le fait que, tout simplement, vous déclarez le chiffre d'affaires que vous percevez, enfin, qui est un peu l'équivalent du salaire, surtout si vous êtes en micro-entreprise. Vous le déclarez à Pôle emploi et du coup, vos indemnités sont adaptées en conséquence. Donc, vous continuez à les percevoir, juste ça va compléter, en fait, votre revenu. Donc, ça ne va pas vous enlever votre Pôle emploi. Voilà, donc du coup, vous pouvez très bien faire une mission à 500 euros une fois. Ça ne vous enlèvera pas vos indemnités, bien sûr.
Ça rallonge en fait, les indemnités se rallongent dans le temps. Et puis ces missions comblent les fameux trous dans le CV. Est-ce qu'on peut parler de ces trous dans le CV? Tu sais que ça a été le sujet de différents podcasts. On fait aussi beaucoup de publications, notamment sur LinkedIn à ce sujet. Il y a une très bonne nouvelle que je souhaite annoncer aux auditeurs, que tu as noté aussi, c'est que sur LinkedIn maintenant, il n'y a plus de trous dans le CV en tant que tel. Vous savez, ces trous dans le CV, ce sont ces périodes d'inactivité professionnelle que les recruteurs sont censés aller chercher, ils farfouillent, ils essayent de savoir pourquoi on n'a pas eu d'expérience de telle date à telle date. Maintenant, sur LinkedIn, on a la possibilité de mettre des expériences personnelles. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que ça va changer pour autant et très vite la mentalité des recruteurs, mais je pense que les missions de freelancing, justement, permettent d'occuper cet espace qui, parfois, peut faire peur au futur employeur.
Exactement, tu fais bien d'en parler parce que le freelancing, moi je trouve aussi que c'est une façon de se former en travaillant, en restant actif. Et j'avais entendu, je crois un Américain, je ne me rappelle plus, sur un podcast, quelqu'un dire « faire du freelance, c'est être payé pour se former ». Et en fait, je trouve ça très vrai parce que quand on démarre une nouvelle mission chez un nouveau client dans un nouveau secteur d'activité, ben on rencontre des gens, on utilise un nouveau logiciel, on apprend un nouveau vocabulaire, on découvre une nouvelle industrie et tout ça tout en étant payé. Donc, c'est quand même plutôt bien. Donc, c'est une façon de mixer hobby, formation et networking tout ensemble pour s'occuper aussi dans son process de recherche d'emploi. Alors attention, je sais que c'est très chronophage la recherche d'emploi, donc faites attention, si vous voulez quand même faire un CDI, passez pas toute votre vie à faire du freelancing non plus, continuez à préparer vos entretiens, vous voyez, il faut trouver juste milieu. Mais bon, peut-être que vous serez surpris aussi par ce format de travail et que ça vous plaira et auquel cas vous pourrez devenir freelance pour de bon.
Alors j'aime beaucoup cette idée d'être payé pour être formé et je dirais même, quand on t'écoute, c'est être payé pour faire du réseau, pour enrichir ses relations. Et je le rappelle notamment pour les personnes qui ont des parcours atypiques, pour les personnes qui sont seniors, pour les personnes qui ont du mal à retrouver un emploi, que le réseau, c'est vraiment la clé pour trouver un emploi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a sa propre entreprise en tant que freelance, on ne démarche pas son réseau de la même manière. On a beaucoup plus de valeur, les portes s'ouvrent aussi beaucoup plus facilement. Donc je trouve que être payé pour faire du réseau, bah c'est juste génial.
Et d'ailleurs, pour souscrire, vraiment, je trouve qu'en tant que freelance, les autres freelances sont aussi des gens très ouverts parce que comme ce sont des gens qui travaillent seuls, souvent chez eux, en fait, ils ont besoin de contact humain. Donc, c'est très facile de contacter un autre freelance qui fait le même métier potentiellement que vous en lui disant « j'aimerais bien me lancer, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce qu'on peut boire un petit café ?» Alors, 15 minutes, une demi-heure, parce que quand même le temps c'est de l'argent quand on est freelance, mais ce sont des gens très ouverts qui vous aideront, donc n'hésitez pas à contacter d'autres freelances, et c'est peut-être eux qui vont vous recommander des clients, des missions qui font plus, ou voilà, des clients dans votre industrie, voire même vous présenter des futurs recruteurs. Donc vraiment, ce réseau de freelance est très très bienveillant. Et là où je trouve que des fois, contacter un salarié, c'est délicat parce que le salarié, il a déjà ses collègues, il va déjà déjeuner le midi avec son chef, etc. Contacter un indépendant, un freelance, ça peut être un formateur, un coach. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent là-dedans. C'est beaucoup plus facile, je trouve.
Et ce n'est pas nécessairement dans le même métier. Ça peut être un freelance qui est dans le même secteur et on peut décider à plusieurs d'approcher des clients et d'avoir des offres complémentaires. On peut s'associer. Est-ce que tu ne crois pas justement que le modèle des entreprises est en train de changer aussi par rapport à ça? On parle de, même parce que tu parlais des petites entreprises, des startups qui font appel aux freelance, moi j'ai l'impression que de plus en plus, les grandes entreprises se disent, on a peut-être intérêt à faire des partenariats avec des indépendants ponctuellement sur des sujets très spécifiques, plutôt qu'embaucher des gens à qui on ne pourra pas donner du travail indéfiniment sur ce sujet-là.
Alors, mais moi, je te rejoins complètement. Bon, il y a du pour et du contre. On pourra toujours critiquer la flex économie, tout ça. Mais c'est pas mon propos aujourd'hui. C'est de dire que si vous le décidez, justement, vous allez pouvoir façonner une carrière qui vous convient. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans cette nouvelle façon de travailler. Déjà, le télétravail, le remote, a permis énormément l'essor de cette façon de travailler. Aujourd'hui, moi, j'en ai profité pour déménager à Nantes, alors que j'étais parisienne. Et je fais toutes mes missions en télétravail depuis chez moi, alors que mes clients sont à Paris. Donc ça, c'est une grosse flexibilité supplémentaire. Ensuite, de plus en plus d'entreprises font appel à des freelances, y compris sur des fonctions régalienne. Avant, c'était que des designers, des développeurs informatiques. Moi, je suis directrice commerciale. Je peux exercer en freelance. Un directeur financier peut exercer en freelance. Une assistante de direction, un chargé de marketing, un community manager. En fait, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à ça. Et du coup, je trouve que ça crée quelque chose de plus rigolo pour l'employeur comme pour l'employé. C'est qu'on a moins une relation de subordination. On a plus une relation de partenaire. Donc, c'est très utile aussi pour s'entraîner à négocier, pour soigner ses relations. Et puis, on est plus dans le poly, j'allais dire, c'est pas le polyamour, mais c'est le poly-travail. On a plusieurs employeurs. Comme ça, on n'attend pas non plus tout de l'employeur et on trouve son compte et on trouve des choses agréables chez un peu tous les clients avec qui on travaille. Je trouve que la relation, elle est plus équilibrée comme ça.
C'est une relation finalement de partage, mais de partage avec des interlocuteurs différents. Moi, ce qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, c'est la possibilité de travailler finalement depuis chez soi, depuis Nantes pour toi. Moi, je travaille au bord de la mer de la même façon que toi. Et ça, c'est précieux parce que les chercheurs d'emploi sont aussi parfois angoissés. Ils ont des entreprises qui les intéressent, mais ça va nécessiter de déménager leur famille. Parfois, ils n'osent pas non plus se positionner sur des postes ou sur des missions parce que c'est loin de chez eux. Alors que finalement, avec le freelancing, on a cette possibilité de travailler avec différentes entreprises, différents interlocuteurs sur différents sujets et à différents endroits.
Ça permet plus de liberté. Si je prends mon exemple, moi, j'étais quand même confinée avec mon bébé de 8 mois. Et je trouve que le fait de chercher des missions en freelance, en remote, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler, même parfois une heure par-ci, deux heures par-là. C'était quand même génial de pouvoir combiner ça avec la vie de jeune maman, qui est quand même aussi un critère souvent discriminant dans le retour à l'emploi. Certains de mes collègues ou de mes confrères ou consoeurs travaillent à l'international sur différentes missions de l'Asie aux États-Unis, sur différentes zones de temps aussi, la nuit, le jour, le week-end, quand ils veulent. En fait, c'est beaucoup plus de flexibilité. Et quand on combine ça avec une vie de famille ou avec d'autres ambitions, je ne sais pas, du sport ou quoi. Donc voilà, être freelance, c'est aussi pouvoir rompre avec un schéma traditionnel d'emploi dans un bureau de 8h à 18h, mettons. Et d'autant plus quand les entreprises ont exigé pour certains le retour au bureau, ça a pu être un traumatisme. Donc voilà, exercer aussi quelques missions de freelance, qui peut d'ailleurs être combinée avec du CDD, du temps partiel, voire même du portage salarial. En fait, voilà, imaginez-vous que maintenant, l'univers professionnel du contrat de travail, il est beaucoup plus souple et donc il permet aussi peut-être certains arrangements que vous ne vous autorisiez pas avant. Pourquoi pas les explorer? En tout cas, on est là pour ça, pour vous y aider. Moi, j'en parle toutes les semaines avec des freelances ou des entrepreneurs que je reçois sur le board. Et toi, tu en parles aussi dans tous ces épisodes. Donc, on peut explorer ça ensemble.
Finalement, c'est précieux aussi la liberté. On dit que ce qui est précieux, c'est le temps. Souvent, je rassure les chercheurs d'emploi et je leur dis, ne vous découragez pas parce que vous avez entre les mains quelque chose de très précieux qui est le temps. Quand on travaille, quand on a de grosses responsabilités, on rêverait d'avoir du temps pour soi, pour se poser, pour faire un point, pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de ne plus faire, qu'est-ce que je ne veux surtout, surtout jamais refaire. Donc, on a ce temps. Et on a finalement cette liberté d'action parce que, comme tu l'as dit, être freelance, c'est pas être freelance 100% du temps. On peut décider d'avoir une petite mission qui va nous occuper, qui va nous rassurer, qui va nous permettre de faire du réseau, de rencontrer des gens. Et en parallèle, on peut continuer aussi quand même à chercher un emploi. Alors ma question serait, comment justement on peut mener ce parallèle? Comment est-ce qu'on peut mener les deux de front? Est-ce que tu as des histoires à nous raconter, des anecdotes, des gens qui ont réussi? Parce qu'il va y avoir ceux qui vont décider de rester freelanceurs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs.
Oui, bah freelancer, c'est le terme international et freelance, c'est ce qu'on dit en France.
Alors voilà, ceux qui vont décider de rester freelance et puis ceux qui vont se dire bah, « j'ai occupé mon temps de cette manière-là, je me suis reconstruit et je préfère aller vers le salariat ».
Tout est possible, je crois. C'est vrai que souvent, quand on est freelance et que ça se passe bien, on nous propose de continuer dans des formats plus classiques, CDD, CDI. Moi, j'ai eu souvent justement des propositions d'emploi. Après, on prend ou on ne prend pas selon ce qu'on a envie de faire. Donc déjà, si ça peut vous rassurer, c'est aussi une façon d'entrer un pied dans l'entreprise et du coup de s'assurer des meilleurs retours possibles d'être pris en CDI, par exemple. Continuer en tant que freelance, il va falloir aussi organiser son budget et son plan de travail. Donc en fait, tout simplement, on fait un peu un business plan. Alors je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que quand on crée une entreprise. Mais en tout cas, on se demande combien de jours on veut travailler, à quel prix. On calcule si ça suffit pour vivre cet argent, etc. En gros, on fait des choix quoi, financiers. Et ensuite, on essaye de trouver des missions qui nous permettent de travailler sur les jours où on veut travailler. Sachant qu'il faut quand même prendre en considération qu'il y a à peu près, je pense, allez, je dirais un jour au moins dans la semaine qu'on ne peut pas compter comme facturable parce que c'est pour faire l'administratif, sa prospection, son LinkedIn et tout ça. Voilà, donc on fait un équilibrage entre l'argent qu'on veut gagner et le temps qu'on est prêt à y consacrer. Et tout part de là, en fait, pour son organisation personnelle. Moi, par exemple, pour prendre mon exemple personnel, je ne consacre pas tout mon temps à mon freelancing parce que j'ai mon média à côté, j'ai le board. Et le board, en fait, ça me demande du temps d'enregistrer les épisodes, de trouver les invités, etc. Donc, j'ai calculé, moi, qu'il faut que j'ai à peu près deux jours de travail, deux à trois jours de travail par semaine de freelance en tant que directrice commerciale, et le reste, je peux le consacrer à mon média ou au développement de mon activité. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu vois, c'est très très flex. Il y a des freelances qui travaillent deux jours, d'autres cinq jours. Enfin voilà, c'est variable. Et vous pouvez travailler en sprint aussi. Vous pouvez dire, je travaille à fond pendant trois semaines et ensuite après, je suis plus cool.
Encore une fois, c'est un mode de travail et de recherche d'emploi très libre. Alors comment, parce que ça, c'est une question qui revient aussi souvent de la part des chercheurs d'emploi. Qu'est-ce que je mets sur LinkedIn? Comment je me positionne? Est-ce que je me mets en tant que chercheur d'emploi? Est-ce que je me mets en tant que freelance? Tu vois, notamment dans le résumé, le fameux à propos, dans l'intitulé LinkedIn, comment est-ce que je fais pour faire savoir que je suis freelance, mais que je peux aussi être ouvert à d'autres opportunités professionnelles?
Alors, comme toujours et comme souvent, il y a souvent deux écoles. Il y en a qui préfèrent expliciter, parce qu'il y a des gens qui cherchent explicitement un freelance ou d'autres qui cherchent explicitement quelqu'un à recruter. Moi, je suis plutôt de l'école, peu importe. En fait, le sujet, ce n'est pas de dire quel type de statut on propose pour travailler. C'est plutôt de parler des compétences, des problèmes qu'on peut résoudre pour l'employeur qui cherche un freelance ou un CDI. Par exemple, moi, je ne dis pas « je suis directrice commerciale en CDI ». Je vais commencer par parler de mes clients cibles et je vais dire « vous êtes frustré par vos résultats commerciaux. Vous manquez de temps pour piloter le développement commercial de votre entreprise. Ou il faut que vous recrutiez des commerciaux, mais vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Alors, vous pouvez faire appel à moi. Voilà les différentes choses que j'ai pu faire avec différentes entreprises. Un peu, ça, c'est mon portfolio. Et à la fin, je mets soit un lien vers mon agenda en ligne, soit un lien vers mon site internet ou mon portfolio. On en parlera dans un autre épisode, mon book. Mais si tu veux, j'attire les gens à moi par mes compétences, par ce que je peux faire pour eux, et pas forcément combien d'heures je peux travailler, à quel prix ou sous quel statut. D'abord, on discute, et c'est là, quand je vais parler avec le client, que je vais découvrir s'il a besoin de moi longtemps, pas longtemps, ponctuellement. Et je pense que, de toute façon, ce qui intéressera tout le monde en recherche d'emploi, c'est de rencontrer un maximum de personnes. Donc, moi, je dis, et ça, c'est mon côté commercial, plus on rencontre de monde, plus on a d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Et puis prendre un café 15 minutes avec quelqu'un en visioconférence, ça ne va pas non plus nous prendre tout notre temps. Donc voilà, soyez très ouverts, parlez plutôt de ce que vous pouvez faire pour l'entreprise et vous verrez, les gens vont venir à vous et après, ben, ça vous donnera une bonne opportunité ou pas de décrocher une mission ou peut-être d'avoir un entretien.
Mais tu sais que dans le résumé LinkedIn, parler de l'entreprise avant, c'est déjà être dans une démarche, finalement, de prestataire de service. Alors, est-ce que cette démarche peut convenir à un chercheur d'emploi? Certainement, j'en sais rien, c'est une question que je te pose.
En fait, je pensais comme toi au début, parce que je suis de l'école. Moi, j'ai connu LinkedIn comme un CV, en fait, et juste pour être trouvé par des chasseurs de tête. Sauf que de plus en plus, je vois que cette méthode, elle convient à tous les styles. Par exemple, moi, sur mon profil, je parle de mon podcast et je ne dis pas « je suis Flavie, mon podcast est génial, vraiment si vous ne l'écoutez pas c'est n'importe quoi, voilà ». Non, non, je dis « tu es solopreneur ou freelance, tu es en train de créer ton entreprise, c'est compliqué de devoir tout gérer tout seul, on n'est pas expert sur tout, parfois peut-être que tu te sens seul ». Donc si tu veux, en fait, tu vois, je parle de mon auditeur et seulement à la fin je lui dis « alors si tu penses que tout ça c'est une vérité pour toi, ben découvre mon podcast, il va t'aider à te former, trouver des collègues, etc. Tu vois ? Donc finalement, je pense que cette méthode, elle est bonne pour tout le monde. C'est d'abord, c'est arrêter de parler de soi en premier, parler plutôt de ce qui intéresse. Là où c'est compliqué, c'est quand tu postules, entre guillemets, à tout va. Tu ne sais pas dans quel type d'activité, dans quel métier. Là, c'est compliqué. Moi, je te dis, ce principe de profil en entonnoir, comme ça, il est tout à fait valable quand tu sais très clairement quel genre de métier tu veux.
Alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Parler de l'autre avant de parler de soi-même, c'est propre aussi à la relation amoureuse. Tu sais que je compare très souvent la recherche d'emploi à la relation amoureuse. Mais ce que tu as décrit, les schémas que tu as décrits tout à l'heure, correspondent aussi à ça, à s'intéresser à l'autre avant de parler de soi, de façon à séduire l'autre en lui parlant de ce qui va l'intéresser d'une certaine manière. Et ça m'amène à LinkedIn, à te poser une question, et je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu penses que LinkedIn est une jolie manière, quand on on est freelance, de se faire repérer par rapport à quand on est chercheur d'emploi? Est-ce que tu trouves des clients sur LinkedIn? Est-ce que ça donne une belle image? J'en reviens à ma notion de marque candidat. Tu sais, je crois beaucoup à ça, beaucoup au personal branding, à l'image que l'on peut avoir. Est-ce que tu penses que LinkedIn est un bon outil pour ça?
Ah ben moi, tu sais que j'adore LinkedIn et notamment la façon dont ça évolue. Je trouve que c'est plus libre qu'avant et justement, on peut mieux s'exprimer. Et presque le conseil que j'ai à donner sur LinkedIn, il dépasse le statut de salarié, il dépasse le statut même de freelance. Moi, je dirais plutôt, et là, je prends ma casquette média, je dirais plutôt, allez sur LinkedIn et racontez aux gens de quoi vous allez leur parler sur LinkedIn plutôt. Plutôt que de dire « je vends tel truc » ou « je cherche tel emploi », ça, c'est pareil, c'est parler de soi. Mettez un bandeau, mettons, disant ici sur LinkedIn, toutes les semaines, je vous parle de data. Ou toutes les semaines, je vous aiderai à mieux organiser votre administratif en entreprise. Et en fait, ce faisant, vous commencez à publier du contenu, à écrire des articles qui vont intéresser vos clients cibles, si vous êtes freelance, ou vos recruteurs cibles, si vous êtes employé. Et tout naturellement, les gens vous reconnaîtront comme quelqu'un d'intéressant à suivre. Et c'est là que ce sera un début de conversation. Et je pense que de la conversation vont pouvoir naître des opportunités. Donc, vous prenez pas la tête. Freelance, CDD, CDI, peu importe le statut. Tu parlais de relations amoureuses. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas si ça va durer la nuit ou pour toute la vie, en fait. Et ça serait bizarre de venir s'afficher en disant « Attends, moi, je cherche que une relation de un mois ou je cherche que à me marier. » Donc, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, le freelancing ou le CDI. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça commencera par une rencontre sympathique sur des centres d'intérêt communs.
Et j'aimerais beaucoup terminer ce podcast sur ces mots parce que je les trouve très jolis et ça va aussi rassurer beaucoup de personnes. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant que l'on se quitte?
Je vous souhaite plein de bonheur et de bonnes choses dans votre recherche d'emploi. Et puis si vous, finalement, si vous matchez avec le statut de freelance et si vous restez freelance, entrons en contact. Moi, je parle de freelancing, justement, qui est un peu mon nouveau mode de vie sur LinkedIn et bien sûr dans le board. Donc, on se retrouve dans le board avec plaisir pour vous accompagner aussi dans votre aventure de freelance.
Alors, merci beaucoup, Flavie. Je vous invite, chers auditeurs, à rentrer en contact avec Flavie. Elle vous l'a proposé. Donc, envoyez-lui des invitations. Elle vous répondra. Suivez ses contenus. Elle édite aussi une newsletter. Écoutez son podcast parce qu'elle, je crois que ton podcast, il y a un format tous les jours de 5 minutes. Ça va vous rebooster. Ça va vous redonner du courage. Ne vous dites pas, oh, il faut absolument que je sois freelance. Non. Tentez d'être freelance, cherchez un job en parallèle, soyez le plus libre possible, mais vraiment suivez Flavie parce qu'elle vous remontera le moral. Merci à tous, merci pour votre écoute et puis à très bientôt sur LinkedIn dans un prochain épisode, de nouveau avec Flavie, qui nous parlera de quoi?
De comment créer un book ou un portfolio pour montrer ses talents et trouver plus facilement un emploi justement.
Donc dans le prochain épisode, on sera typiquement dans la marque candidat. Merci à tous, au revoir et très belle journée.
Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.